La Sociale Le Mag, un podcast de la Cour de cassation. La jurisprudence de la Chambre sociale, racontée par ceux qui la font.
Chers auditeurs, dans ce quatrième numéro spécial de la Fabrique de l'Arrêt, nous donnons la parole à la doctrine avec nos deux invités professeurs d'université. Pascal Lokiek, vous êtes professeur de droit du travail à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et président de l'Association française de droit du travail et de la sécurité sociale. Et Paul-Henri Anton Mattei, professeur de droit du travail à l'Université de Montpellier, doyen honoraire et membre du Haut Conseil du Dialogue Social. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Madame la conseillère référendaire à la Chambre sociale de la Cour de cassation.
Bonjour Clélia Prieur.
Pour nourrir le dialogue de la Cour de cassation avec la doctrine, j'ai également invité Emmanuel Wörtz, premier avocat général de la Chambre sociale.
Bonjour Clélia.
Si vous êtes curieux de savoir comment la Cour de cassation fabrique ses arrêts, je vous invite à reprendre le fil de l'histoire, à son commencement. Écoutez le podcast La Sociale Le Mag, qui donnait la parole aux avocats généraux, celui présentant la contribution des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, puis celui consacré au rôle joué par le président et le doyen de la Chambre sociale. Mais aujourd'hui, dans les coulisses, parlons doctrine. Car pour fabriquer ses arrêts, la Cour de cassation entretient un dialogue multiforme avec la doctrine, qui est à la fois formel et informel. Elle trouve ainsi une source d'inspiration et de réflexion par ses échanges avec l'université, lors des colloques ou à l'occasion de controverses, avec des articles dans des revues qui se répondent. C'est ce qu'on appelle le dialogue formel. Il existe aussi un dialogue informel par la lecture des commentaires de doctrine qui nourrissent les travaux des conseillers rapporteurs et du parquet général. On peut dire que ces lectures participent véritablement à la réflexion de la Cour de cassation et font évoluer sa jurisprudence. C'est l'apport d'un autre regard. Pascal Lokiek, nous commençons avec vous par définir ce qu'est la doctrine.
On peut décrire la doctrine comme l'ensemble des travaux juridiques destinés à exposer ou à interpréter le droit. Elle s'oppose en cela à la législation et à la jurisprudence. Les sources de la doctrine sont aussi bien écrites, par exemple les manuels, qu'orales, notamment les colloques, dans lesquels interviennent d'ailleurs régulièrement les membres de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Les colloques, notamment ceux organisés par les universités et par l'Association française de droit du travail, sont d'ailleurs un important lieu d'échange entre universitaires et membres de la Cour de cassation.
Ces échanges sont extrêmement précieux, tant pour la doctrine que pour les juges. Mais pourquoi parle-t-on de la doctrine ? Le singulier qui y est attaché a-t-il du sens ?
Non, d'ailleurs, je ne prétends évidemment pas parler au nom de la doctrine dans ce podcast. Je voudrais insister sur ce point. La doctrine est par essence pluriel. S'il peut exister une doctrine de la Cour de cassation, il n'existe évidemment pas une doctrine de l'université, sans compter que les universitaires ne sont pas seuls à faire de la doctrine. En poussant le propos un peu plus loin, l'unité de la jurisprudence est un objectif louable, même nécessaire. Chercher l'unité de la doctrine serait chercher la pensée unique et sans nul doute appauvrir la pensée sur le droit. En tout état de cause, prétendre régler les divergences doctrinales est tout aussi vain que dénué de sens.
Oui, les désaccords entre une cour d'appel et la Cour de cassation se règlent par la voie normative. C'est la Cour suprême qui fixe la norme. Sauf quand les juges du fond se rebellent et font appel aux normes européennes ou internationales, comme l'a très bien raconté Emmanuel Carrère dans « D'autres vies que la mienne » à propos du relevé d'office en matière de surendettement. Le principe est qu'il existe une hiérarchie des juridictions.
A l'inverse, faute de force normative de la doctrine, il n'existe pas de gradation ou de hiérarchie doctrinale, à part celle dictée par l'expertise supérieure de tel auteur sur tel sujet, ou celle très discutable qui pourrait provenir de la notoriété supérieure de tel auteur.
Et Pascal Lokiek, dites-nous quelle est la nature de ce pluralisme doctrinal appliqué au droit du travail ?
il peut d'abord être politique au sens très large du terme. On parle parfois de courants doctrinaux. Il tient alors à des positions ou engagements qui vont faire pencher l'auteur plutôt d'un côté ou de l'autre. C'est très présent en droit du travail, avec une doctrine que l'on classera parfois, même si cela peut être caricatural, comme pro-salarié, et une autre que l'on classera comme pro-employeur.
Mais le débat doctrinal n'est pas et ne peut pas être exclusivement politique.
Effectivement. Derrière les désaccords, ce sont le plus souvent des raisonnements qui sont à l'œuvre. Certains auteurs seront ainsi favorables au contrat, d'autres à la loi. Certains croiront dans la toute-puissance de l'accord collectif, d'autres dans la toute-puissance de la loi. Les premiers vont être favorables à la présomption de légitimité accordée par la Chambre sociale depuis 2015 à certaines différences de traitement définies par accord collectif. Les seconds vont la critiquer vigoureusement. Dans cette même perspective, certains auteurs vont s'appuyer sur le droit européen dans leur raisonnement. D'autres vont chercher dans les marges d'appréciation qu'offrent l'interprétation et la mise en œuvre du droit le moyen de limiter la portée de ce même droit européen. On l'a très bien vu sur le barème des indemnités prud'homales, où la balance a penché d'un côté, alors qu'elle aurait aussi bien pu, voire dû, à suivre une certaine doctrine dont je fais partie, pencher de l'autre.
On comprend bien que derrière les désaccords, ce sont aussi des interprétations différentes de la loi ou de la jurisprudence qui sont en jeu.
Tout à fait. Au vu d'un droit indécis, parfois flou sur certains sujets, certains vont considérer par exemple que l'employeur a l'obligation de licencier le salarié coupable de harcèlement moral, d'autres non. Certains considéreront que le comité social et économique doit être informé et consulté sur l'opération économique ayant engendré une rupture conventionnelle collective, d'autres non.
Sortons maintenant de la question du pluralisme pour aborder l'impact des écrits doctrinaux sur la jurisprudence.
Étant extérieur à la Cour de cassation, je suis très mal placé pour en parler. Il est certain que la doctrine se nourrit de la jurisprudence, qui constitue pour elle un matériau fondamental. La note d'arrêt constitue un exercice très classique, et évidemment, les articles dits de doctrine sont truffés de références d'arrêt. Mais l'inverse est aussi vrai, dit-on en tout cas. La doctrine influencerait, parfois déterminerait, la jurisprudence.
Pouvez-vous nous en donner quelques illustrations ?
Comment ne pas citer la célèbre controverse entre Gérard Couturier et Gérard Lioncamp sur la place du droit civil qui revient à chaque fois que l'on s'interroge sur la façon d'appliquer le droit commun des contrats au contrat de travail ou à l'accord collectif ? Particularisme ou pas ? Cette controverse a très probablement influencé nombre de jurisprudences majeures, notamment le traitement de la modification du contrat de travail. Je pense par exemple au fameux arrêt Raquin. Les arrêts Air France ont très certainement été inspirés par les écrits de ces grands spécialistes de santé et sécurité au travail que sont Sophie Fantoni et Pierre-Yves Verquin. Pour ces auteurs, donner toute sa portée à l'obligation de sécurité impliquait de la sortir du giron contractuel, dont relève la catégorie d'obligation de résultat, pour en faire une obligation légale fondée sur les principes généraux de prévention.
Cette position doctrinale sera effectivement suivie par la Cour de cassation avec ensuite une importante controverse impliquant tout autant les universitaires que les praticiens sur la question de savoir si la disparition de l'obligation de résultat constitue un recul.
Controverse d'autant plus intéressante qu'on ne retrouve pas le clivage gauche-droite. Pour certains, dont les auteurs à l'origine de ce revirement, cette disparition poussera les employeurs à faire des efforts de prévention. Il y a sans doute là un exemple typique du dialogue nécessaire, tout autant ex ante qu'ex post, entre jurisprudence et doctrine.
Et nous poursuivons la Sociale Mag, la fabrique de l'arrêt, par le dialogue de la doctrine avec le parquet général. Emmanuel Wörtz, comment l'avocat général enrichit-il sa réflexion de la doctrine ?
Pour répondre à cette question, il faut rappeler ce qu'est le rôle de l'avocat général à la Cour de cassation, expliqué dans le podcast dédié numéro 18 de juin 2023. L'avocat général à la Cour de cassation n'a pas pour mission de défendre l'ordre public, il n'est pas davantage une partie au litige. L'avocat général est un membre à part entière de la Chambre, même s'il ne participe pas aux délibérés. À l'instar du conseiller rapporteur, il fait une analyse juridique du dossier et propose la solution qui lui paraît la plus pertinente, dans l'intérêt de la loi et du bien commun selon les termes mêmes du législateur. Il porte donc un second regard sur les questions juridiques en débat. Et à ce titre, il est libre de proposer des évolutions, voire des revirements de jurisprudence.
Pour accomplir cette mission, l'avocat général enrichit-il son analyse des réflexions doctrinales en cours sur les questions soulevées par les pourvois ?
Oui, tout à fait. C'est ainsi que pour appuyer ses avis, l'avocat général est régulièrement amené à citer des travaux de recherche, des ouvrages, des articles diffusés par la doctrine universitaire. Par ailleurs, la doctrine est une source documentaire très utile lorsqu'elle évoque, notamment dans des rapports, les difficultés d'application de certains textes tels qu'interprétés par la jurisprudence. Or, la mission de l'avocat général est aussi de faire mesurer aux magistrats qui délibèrent la portée de leurs décisions en droit et en pratique. De même, ce dialogue entre la Cour et la doctrine permet d'anticiper utilement des questions juridiques nouvelles, suscitées le cas échéant par un texte de loi ou une décision de la Chambre, donc de nature à nourrir un contentieux futur.
Pouvez-vous, Emmanuel Wörtz, nous donner un exemple de citation des travaux de la doctrine dans un avis de l'avocat général ?
Parmi de nombreux exemples, je peux vous citer le pourvoi qui a donné lieu à l'arrêt de la Chambre sociale rendu en sa formation plénière le 19 avril 2023. La question posée était de savoir s'il fallait appliquer les dispositions protectrices des articles L1152-2 et L1152-3 du Code du travail à un salarié licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral sans qu'il ait lui-même, dans sa lettre, expressément qualifié ainsi les faits dénoncés. La première avocate générale en charge du dossier proposait un revirement de la jurisprudence issue de l'arrêt du 13 septembre 2017 qui exigeait en effet que les faits dénoncés soient expressément qualifiés par le salarié de harcèlement moral et nommés comme tels. À l'appui de son avis, elle citait notamment la doctrine presque unanimement critique et inquiète de l'excès de formalisme de cette décision et de sa portée, y compris en matière de harcèlement sexuel et discrimination.
Ce revirement de jurisprudence est intervenu pour différentes raisons, non exclusivement liées à la position critique de la doctrine. Mais celle-ci a permis d'enrichir et d'appuyer l'avis de l'avocat général. Dans de telles affaires, qui posent des questions juridiques controversées, peut-il saisir un universitaire d'une consultation juridique ?
Non. L'avocat général n'a pas à procéder à une consultation de la doctrine sur un point de droit, comme peuvent le faire les avocats. En effet, la consultation extérieure, initiée par l'avocat général, ne peut porter ni sur les faits du dossier en cause, ni sur une question juridique. Dire le droit relève fondamentalement de l'office du magistrat, a fortiori à hauteur de cassation, qu'il soit avocat général ou conseiller, ce qui exclut donc toute consultation de la doctrine sur un moyen juridique développé dans le pourvoi, en demande ou en défense. Par ailleurs, la doctrine est rarement unanime sur une question. Il incombe donc à l'avocat général de prendre connaissance de façon large des commentaires les plus avisés et pertinents sur les questions débattues et de se forger son propre avis.
Chacun reste donc à sa place. Néanmoins, j'ajouterai qu'aujourd'hui, la diffusion de plus en plus fréquente des travaux préparatoires des magistrats, avec la publication des rapports des conseillers et des avis des avocats généraux sur le site internet de la Cour de cassation, permet de voir véritablement à l'œuvre la richesse de ce dialogue. Je vous propose de reprendre le fil du dialogue avec un universitaire. Nous avons vu qu'il était multiforme. Nous avons compris qu'il diffusait la réflexion et les travaux des magistrats jusque parfois le revirement. C'est un langage critique et créatif. Agit-il comme la boussole des possibles imaginée par Mireille Delmas-Marty ou une boussole des vents contraires ? Paul-Henri Anton Mattei, vous qui venez d'une région où souffle le Mistral, que pouvez-vous nous dire de ce dialogue évolutif ?
Même si je suis inconditionnel du Mistral qui donne notamment une luminosité merveilleuse à cette magnifique Camargue qui m'est chère, je vais évoquer le juriste qui dialogue avec les technologies de son temps, Internet et les réseaux sociaux.
C'est moins poétique mais très intéressant. Alors, s'agit-il d'un nouveau dialogue formel ou d'une accélération de l'influence et de la critique ?
Le numérique favorise incontestablement la diffusion de publications sur la jurisprudence sociale. Sur le réseau LinkedIn, par exemple, les arrêts significatifs de la Chambre sociale font, quelques heures après leur publication sur le site de la Cour de cassation, l'objet de présentations et de commentaires. Pour de nombreux juristes, c'est devenu la première source d'information sur l'actualité sociale. Le dialogue peut devenir formel si des échanges entre les magistrats et les auteurs de ces publications s'opèrent via le réseau. Je ne suis pas convaincu par la pertinence de cette voie, et ce d'autant que les décisions sont rendues collégialement, ce qui limite naturellement l'expression d'un magistrat. C'est plutôt un dialogue informel, tel que défini précédemment. Ces publications permettent notamment de prendre rapidement la température sur l'accueil d'un arrêt significatif.
Pouvez-vous nous illustrer vos propos d'un exemple ?
Je pense naturellement aux arrêts du 13 septembre 2023 sur la mise en conformité inévitable du droit français avec le droit de l'Union européenne quant à la prise en compte des périodes d'absence du salarié pour maladie ou accident dans le calcul des congés payés. Ce sont des centaines de publications sur LinkedIn qui ont permis de constater des appréciations différentes et sans doute pour les magistrats de prendre rapidement connaissance de la teneur de certaines critiques.
La doctrine est, me semble-t-il, une influenceuse qui ne connaît pas ses followers magistrats. À la Cour de cassation, la décision rendue est une expression collective majoritaire et les opinions individuelles séparées ou dissidentes ne s'exposent pas comme c'est le cas à la Cour européenne des droits de l'homme. Le délibéré reste secret et seul plonge en son cœur les conseillers qui y participent. La prudence est de mise, même si la parole se libère lors de rencontres avec universitaires, avocats et juristes d'autres cours suprêmes comme celles organisées par la Chambre sociale. Là sont débattues des questions juridiques controversées qui contribuent à l'évolution de la jurisprudence. Mais peut-on mesurer le véritable impact du dialogue ?
Cela n'est pas simple. Les universitaires ont la faiblesse de penser que, parfois, l'opinion doctrinale a emporté la conviction des magistrats de la Cour de cassation. On peut s'en convaincre lorsque les magistrats reprennent dans sa formulation une opinion doctrinale bien ancrée et ou lorsqu'une note explicative indique expressément cette opinion. Lorsque des magistrats publient des articles relatifs à des arrêts significatifs, la référence à des écrits de la doctrine permet aussi de vérifier l'influence de cette dernière.
Pouvez-vous nous citer, Paul-Henri Anton Mattei, un ou deux arrêts emblématiques récents en droit du travail pour lesquels la doctrine a joué un rôle soit d'influenceuse, soit de critique ?
Je ne peux qu'évoquer le même arrêt emblématique que celui cité par Pascal Lauquiec, à savoir l'arrêt Air France du 25 novembre 2015 sur l'obligation de sécurité. Rappelons brièvement les faits. Un salarié chef de cabine a été pris d'une crise de panique qui a donné lieu à un arrêt de travail. Invoquant une obligation de sécurité de résultat pesant sur son employeur, il reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la société Air France avait mis en place un suivi psychologique et un débriefing individuel afin de prévenir les troubles consécutifs à un état de stress post-traumatique.
La Cour de cassation a rejeté l'argumentation du salarié en jugeant que « ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail ».
Effectivement, la reconnaissance d'une obligation légale fondée sur les principes généraux de prévention et non plus contractuel, semble bien avoir consacré l'analyse défendue par Sophie Fantoni et Pierre-Yves Verquint. L'employeur est toujours tenu par une obligation de résultat, mais le résultat à atteindre est désormais constitué par les mesures nécessaires de l'article L4121-1 du Code du travail. En cas de litige, l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant avoir tout mis en œuvre pour éviter les risques et protéger ses salariés.
Pour finir, pouvez-vous nous citer un arrêt emblématique en opposition avec une doctrine majoritaire ?
Celui qui me vient à l'esprit est l'arrêt dit US Capgemini du 6 mars 2024 sur la nature juridique de l'accord collectif portant reconnaissance d'une unité économique et sociale. Depuis que le Code du travail s'est enrichi en 2016 d'une section consacrée aux accords inter-entreprises, nombreux sont les auteurs qui ont préféré cet habit juridique pour l'accord de reconnaissance ou de modification de l'unité économique et sociale, permettant ainsi aux négociateurs de bénéficier de règles plus précises sur la détermination de la représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de cet accord et sur la validité de ce dernier que le renvoi jurisprudentiel de 2013 aux conditions de droit commun. Ce n'est pas l'analyse de la Chambre sociale dans l'arrêt UES Capgemini du 6 mars 2024. L'accord collectif, portant reconnaissance d'une unité économique et sociale, ne constitue pas un accord inter-entreprise. C'est la douche froide pour la doctrine. Peut-être faudrait-il, pour sortir de la controverse, suggérer aux législateurs de construire un régime sui generis de l'accord de reconnaissance d'une unité économique et sociale.
En conclusion, je voudrais saluer les abonnements aux divers ouvrages, manuels ou revues juridiques, mais aussi les veilles juridiques en droit national, européen ou en droit administratif, établies par le service de documentation des études et du rapport de la Cour de cassation, qui contribuent à une meilleure prise en compte de la doctrine dans la fabrique des arrêts. On pourrait imaginer que ce service de la Cour dresse un inventaire des thèses en droit du travail pour favoriser un dialogue informel riche et approfondi avec la doctrine sur des questions techniques. Le rapport annuel de la Cour de cassation pourrait aussi suggérer des sujets de travaux de recherche utiles pour les praticiens. Et pourquoi pas imaginer un prix de thèse de la Chambre sociale ? C'est la fin de notre podcast. Vous trouverez les références des arrêts cités dans ce podcast La Fabrique de l'Arrêt sur le site internet de la Cour de cassation, rubrique kiosque, ainsi que les arrêts les plus récents cités à la lettre de la Chambre sociale. Et je remercie chaleureusement nos trois invités pour leur participation.
Merci Clélia.